Les infos à Washington.
Eric Mandela Kiza de retour avec vous pour vous présenter ce journal. Il est 7h à Washington, 13h à Bujumbura au Burundi. Bienvenue dans ce journal. 12 membres d'équipage d'un navire battant pavillon suisse ont été enlevés ce week-end au large du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de la compagnie suisse de transport maritime Massol Shipping.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous nous excusons de ce petit incident technique. Je vous disais donc que 12 membres d'équipage d'un navire battant pavillon suisse ont été enlevés ce week-end au large du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de la compagnie suisse de transport maritime Massol Shipping.
Selon le communiqué de l'armateur suisse rendu public hier, un groupe de pirates a réussi à monter sur le pont du Glarus, se servant de hautes échelles et ont coupé les barbelés de protection. Après avoir détruit une grande partie de l'équipement de communication sur le navire, le groupe est parti avec 12 des 19 membres de l'équipage qu'ils ont pris en otage samedi, indique le texte. Patrick Adamson, porte-parole de Massol Shipping, a expliqué qu'il s'agit de la deuxième attaque de cette envergure cette année dans le delta du Niger, région pétrolière au sud-ouest du Nigeria. Habituellement, les pirates ne donnent aucune nouvelle pendant les premières 48 heures de l'enlèvement, donc nous attendons d'avoir des nouvelles, souligne Monsieur Adamson, qui précise que pour la sécurité des otages et le respect des familles, ni leur nationalité, ni leur identité ne seraient dévoilées. Alors que la situation s'est apaisée dans le golfe d'Aden, à l'est du continent au large de la Somalie, c'est désormais le golfe de Guinée, avec ses 5700 km de côte, qui est devenu le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Plus de 60 membres d'équipage au total ont été enlevés en 2017 au large du Nigeria. L'Union africaine a achevé à Douala 8 jours d'exercice poste et commandement baptisé Imdad Africa 1. L'exercice consistait à tester les processus de soutien aux futures missions de l'organisation. Il s'agissait notamment de planifier un éventuel déploiement rapide d'une opération de soutien à la paix mandatée par l'Union africaine. Au Gabon, à 12 jours d'élection générale, une vingtaine d'intellectuels ont estimé aujourd'hui moralement inacceptable que les recours devant la Cour constitutionnelle chargée de valider les résultats électoraux soit devenu payant depuis 3 mois. L'institution réclame 5 millions de francs CFA pour contester une élection présidentielle et 500 000 francs CFA pour une procédure concernant un député ou un sénateur. En République centrafricaine, plusieurs quartiers de Bangui, la capitale, frappés par de fortes inondations, des centaines de maisons se sont écroulées, de nombreuses familles sont sans abri à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues hier après-midi sur la ville et sa périphérie de Bangui. À Bangui, compte rendu signé Freeman Sipila.
Les secteurs les plus touchés sont les 5e, 4e et 8e arrondissements. Les eaux ont non seulement englouti certaines avenues, mais aussi ravagé des centaines de maisons de commerce et d'habitations. Plusieurs sinistrés pointent du doigt un manque de canalisation dans leur quartier et l'indifférence des autorités de Bangui face à leur situation. Pour exprimer leur colère, une dizaine de mécontents, torse nu, shorts et pantalons trempés, ont barricadé une partie de l'avenue de la Paix dans le 5e arrondissement.
Le problème des inondations qui a amené quand on a barré la route. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on est souffert ici à la cause d'inondation. Toute la maison est tombée avec les enfants dedans. Donc c'est pour cela qu'on a barricadé la route. Il y a l'eau, ça coulait la maison pratiquement. C'est pour cela qu'on a barré la route.
Les dégâts sont aussi énormes dans le 4e arrondissement, précisément dans les localités longeant le canal Ngoubagara. Jusqu'à ce lundi matin, aucun bilan exact n'était encore disponible, car de nombreuses familles s'attendaient au pire avec leurs habitations coincées au milieu des eaux. De leur côté, les autorités de Bangui n'ont pas encore officiellement réagi à cette catastrophe qui n'en est pas à son premier dégât dans la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
RDC, la société civile de Beni, a appelé à une journée sans activité aujourd'hui après le massacre samedi d'au moins 18 personnes dans cette ville du Nord Kivu dans l'est du pays. Ces tueries ont été imputées aux rebelles islamistes ougandais des ADF. Précision de notre correspondant Charlie Kasereka.
Des 18h jusqu'aux environs des minuit samedi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues selon les témoignages recoupés par VOA Afrique dans la ville de Beni. L'attaque visait un camp militaire se trouvant dans les quartiers Païda à l'est de la ville. Dans ces échanges de tirs d'environ 6 heures, l'armée congolaise mentionne un bilan d'au moins 18 personnes tuées, parmi lesquelles 4 militaires et 8 blessés qui suivent les soins à l'hôpital de Beni. Les bilans seraient encore plus lourds selon la société civile locale qui signale aussi des personnes disparues. Dans la foulée, plusieurs dégâts matériels sont aussi signalés, des maisons incendiées, véhicules et motocyclettes calcinées par les assaillants avant de se volatiliser dans la nature. Craignant pour leur sécurité, plusieurs familles habitant les quartiers attaqués se sont déplacées vers les centres-villes de Beni dans des familles d'accueil en attendant la fin des patrouilles militaires. L'un des responsables de la société civile, contacté par VOA Afrique, présente ses inquiétudes suite à cette attaque menée cette fois-ci en plein centre-ville de Beni, ajoutant d'ailleurs que la journée de ce lundi est décrétée journée sans activité pour compatir avec les familles éprouvées par ces derniers massacres. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
La Tanzanie a réservé des funérailles nationales dimanche aux victimes du naufrage du ferry qui a fait au moins 224 morts la semaine dernière. Le navire transportait près de 3 fois le nombre de passagers autorisés, n'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
Au cours d'une cérémonie sur l'île d'Oukara, au large de laquelle le ferry a chaviré, le premier ministre Kassim Majaliwa a évoqué un grand deuil pour la nation tout entière. Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pu être identifiés. Les autres cercueils seront mis à terre plus tard ou ont été amenés par des proches souhaitant des funérailles plus intimes. Les représentants de plusieurs confessions religieuses se sont relayés au micro hier pour des brèves prières et de gerbes de fleurs ont été déposées devant les cercueils. Les drapeaux, comme à travers tout le pays, étaient en berne. Le premier ministre a indiqué qu'un mémorial serait érigé à Oukara. Les opérations de recherche des corps se poursuivent et des travaux en vue de sortir le ferry du lac continuent, même si, selon le ministre des Transports, l'essentiel est fait. Les autorités ont annoncé l'arrestation de toutes les personnes chargées de la conduite et de la supervision du navire.
Abdulrahman Dia, environ 500 000 enfants libyens sont en danger immédiat à Tripoli, qui connaît des affrontements meurtriers depuis près d'un mois, a déploré l'UNICEF depuis le 27 août. Des combats entre milices rivales ont fait au moins 115 morts et près de 400 blessés, selon un dernier bilan du ministère libyen de la Santé publié samedi soir. Les heurts se sont intensifiés au cours des dernières 48 heures au sud de Tripoli et 2,6 millions d'enfants ont besoin d'aide à travers le pays. Ces récents combats ont forcé 1200 familles à quitter leur maison, portant le nombre total de déplacés à plus de 25 000 selon le fonds onusien. Le juge Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, doit faire face à une nouvelle accusation d'inconduite sexuelle 4 jours avant l'audition cruciale de Christine Blasey Ford qui le met également en cause. Et le président américain Donald Trump est resté inhabituellement silencieux à la veille des nombreuses rencontres qu'il doit avoir cette semaine à New York avec d'autres dirigeants du monde à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur Trump doit aussi participer aujourd'hui à un événement portant sur une action globale concernant la coopération internationale dans la lutte contre l'usage illégal de la drogue et visant la suppression des réseaux de fourniture de stupéfiants. Le lendemain, mardi, Monsieur Trump s'adressera donc demain à l'Assemblée générale et mercredi présidera une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dont les États-Unis assurent ce mois-ci la présidence. Cette réunion axée sur l'Iran inclura d'autres sujets, a dit la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Et concernant justement l'Iran, Madame Haley a condamné hier l'attaque perpétrée samedi en Iran lors d'un défilé militaire dans laquelle 24 personnes ont été tuées, mais la diplomate américaine rejette les accusations de Téhéran. Abdulrahman Dia.
Les États-Unis condamnent toute attaque terroriste n'importe où, a déclaré Nikki Haley. Téhéran, qui privilégie la piste séparatiste arabe, a accusé, selon ses termes, un petit État du Golfe d'être derrière l'attentat. Tous ces petits pays mercenaires que nous voyons dans la région sont soutenus par les États-Unis. Ils sont encouragés par les Américains à dénoncer le président iranien Hassan Rouhani. En réponse, l'ambassadrice américaine à l'ONU a déclaré que Rouhani devait regarder chez lui. Il fait face à des Iraniens qui protestent. Tout l'argent qui va à l'Iran va dans son armée. Il opprime son peuple depuis longtemps. Fin de citation. Les Émirats arabes unis ont nié tout lien avec l'attentat, accusant Téhéran de mener une campagne contre Abu Dhabi. Le Qatar, le Koweït et le Sultanat d'Oman ont condamné séparément dimanche l'attaque.
Sur VOA Afrique.